France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Nous poursuivons cet après-midi notre sélection de grands entretiens d'affaires culturelles que vous retrouvez tout l'été pour garder le lien, pour vous faire écouter ou réécouter la parole d'artistes de tous horizons, de toutes disciplines que nous avons reçus au fil des mois. Et le 1er février dernier, mon invité était le cinéaste Gus Van Sant. Bonsoir Gus Van Sant, nous sommes ce soir connectés avec vous, vous êtes à Los Angeles, il est 10h du matin chez vous. Dans ce studio avec moi, Xavier Combes qui va assurer la traduction de notre entretien, puisque votre spectacle Trouble, que vous avez écrit, texte, musique, mise en scène, va être donné à la Comédie de Reims des 4 et 5 février dans le cadre du festival Far Away. Ce sera la première en France, un spectacle qui a été créé au Portugal, au Teatro Nacional de Maria Dos. Il a été présenté depuis en Italie, en Belgique, il le sera aux Pays-Bas, en Grèce, de retour en France à la fin de l'année. Belle occasion de revenir vers vous, avec vous, sur quelques éléments de votre parcours. Alors, commençons avec une image, celle d'une maison qui tombe du ciel, qui s'écrase sur une route au milieu de nulle part. Cette image-là, Gus Van Sant, qu'on a vue notamment dans My Own Private Idaho, elle vient de l'enfance, une enfance nomade, avec un père qui était toujours prêt à déménager aux quatre coins des États-Unis pour trouver de nouvelles opportunités. Qu'est-ce qui vous reste de cette enfance?
Everything, pretty much.
Oh, j'ai des souvenirs d'enfance très précis.
L'image de cette maison qui tombe.
Yeah, I mean, I'm just guessing, but it's an image. My family.
Eh bien, il s'agit d'une image qui m'est venue parce que. À un moment donné, on a déménagé, mais cette image, elle provient de peinture. Et j'ai intégré ça dans My Own Private Idaho, vous l'avez dit. Mais c'est une sorte de traumatisme psychologique que de quitter la maison dans laquelle on a vécu pour aller dans une autre ville, un autre état, à l'autre bout du pays.
C'est vrai que ce thème de la famille, on y reviendra, et des liens familiaux est tout à fait central, qui traverse toute votre œuvre. Cette maison qui s'écroule, qui est détruite, c'est vraiment l'image, centrale, peut-être, de toute votre œuvre.
Relocation and the formation of new families.
Et puis le déménagement, la recomposition des familles, c'est en effet un fil conducteur. Mais la maison, ce n'est pas vraiment un thème central. C'est une image un petit peu particulière tout de même.
Alors, une autre image, Gus Van Sant, ou plutôt des images manquantes, celle des films du cinéma expérimental de la fin des années 60, dont vous lisiez des comptes rendus dans les magazines spécialisés sans avoir accès à ces films, sans pouvoir les voir, mais pourtant, ces descriptions, vous l'avez dit, vous ont marqué. En quoi ce que vous lisiez sur ces films vous a donné envie de faire du cinéma?
Well, I did see some of them. It's just that there were so many of them.
J'en ai vu quelques-uns, mais ils étaient très nombreux, ces films expérimentaux. Il y a des milliers de films. Donc, je lisais des comptes rendus et j'ai pu remarquer que la description qui était donnée des films était peut-être plus explicite que les films eux-mêmes.
You know, they were from the New York. experimental underground.
Il s'agissait de films de l'underground new-yorkais. C'était des films expérimentaux, vous l'avez dit. Et les interprétations étaient assez diverses. Et il y a un ouvrage sur l'underground de New York et l'auteur expliquait bien ce qui faisait la nature même de ce travail. Ces explications étaient parfois plus faciles à saisir que de regarder le film, en fait.
Alors, c'est en 1967 que vous avez acheté votre première caméra avec de l'argent gagné avec un job d'été. Est-ce que vous vous souvenez, Gus Van Sant, de votre première bobine filmée?
Le tout premier film que j'ai tourné, c'était pas avec cette première caméra, bizarrement. Donc je me suis dit, étant donné que j'avais fait un film, je vais acheter une caméra, vous voyez, j'ai fait ça dans l'autre sens. Mais j'avais fait des films d'animation avec mes parents. Ils avaient une toute petite caméra qu'on appelait une Brownie, Brownie 2 en fait. C'était une caméra toute simple avec une manivelle et on pouvait faire des films d'animation. Et puis mon ami qui était en cours d'anglais avec moi, ça c'était au collège, eh bien, cet ami s'y connaissait bien, lui, en film. Et lui, il avait une chouette caméra. Et je me suis servi de sa caméra à lui pour faire un film, d'animation, que l'on voit dans le livre qui a été publié en France. On peut tourner les pages du livre et on voit le facsimilé de ce petit film que j'ai fait. Oh, je devais avoir quoi, 14 ans, et c'est ça le premier film que j'ai fait vraiment.
Alors, 35 ans après l'achat de cette caméra, je fais un grand bond dans le temps, Gus Van Sant, vous avez filmé d'autres images qui vont à leur tour marquer toute une jeune génération d'apprentis cinéastes. Alors quand j'étais moi-même professeur dans une école d'art, le film dont les étudiants me parlaient le plus souvent, c'était Jerry. Jerry, ce film dans lequel les deux garçons prénommés Jerry, interprétés par Matt Damon et Casey Affleck, entreprennent cette longue marche dans la vallée de la mort. C'est peut-être aussi le film que vous avez réalisé qui laisse le plus de place à son spectateur. Est-ce que c'était votre souhait, justement, Gus Van Sant, de nous permettre de rentrer comme on le voulait dans votre film?
Oui, en fait, c'était l'intention qui présidait au style de tournage que j'avais adopté. Il n'y avait pas de dialogue, mais il y avait du mouvement, une dynamique, parce que ces deux personnages essayent de quitter ce désert, la vallée de la mort. Et j'avais vu comment ça fonctionnait dans d'autres films, notamment chez Bellatar.
Et
oui, donc on s'est dit, on va aller en plein milieu du désert sans scénario et on va faire un film sans faire d'études, sans faire le travail en amont. Donc on prenait des notes, mais c'était une atmosphère laconique et le style du film était, comment dire, la forme était le résultat de notre démarche. Je pensais faire un film à la John Cassavetes, vous voyez, mais en réalité, ça s'est terminé différemment. On était plus proche de Bellatar, en fait.
Dans cette même école d'art dont je parlais tout à l'heure, j'avais organisé une double projection pour les étudiants avec votre film, Elephant, Palme d'Or, prime de la mise en scène à Cannes en 2003, puis à la suite, tout de suite, Elephant, réalisé en 89 par Alan Clark pour la BBC. Dans votre cas, qu'est-ce que cela dit de la façon dont une œuvre nourrit une autre œuvre?
The Alan Clark film I had never seen.
Je n'avais pas vu le film d'Alan Clark. Donc, Elephant, c'était une espèce de prolongement de Jerry, toujours sous l'influence de Bel-Atar.
The producer of
le producteur
of the company that gave us the money, HBO.
HBO.
He had worked at BBC, and he referred to the
travaillait à la BBC,
because it was a political statement made during
nommé le film Elephant, parce que c'était une affirmation politique qui avait été faite à l'époque de la crise. Lorsqu'on a fait notre pitch, lorsqu'on a présenté notre projet à HBO, il y avait eu la tuerie de Columbine. Et ça, c'était très présent dans l'esprit et dans la culture des États-Unis. Alan Clark, quant à lui, avait tourné un film pendant, à l'époque du conflit entre l'Irlande et la Grande-Bretagne, et il est sorti à la BBC en plein milieu de ces conflits. Donc, lui, il a appelé ça Elephant, mais ça ne se référait pas vraiment à Elephant. Moi, je ne connaissais pas son film Elephant, mais il l'a intitulé Elephant parce que le directeur de HBO trouvait que c'était comme ça qu'il fallait l'intituler, Elephant.
Alors, sur la question d'une œuvre qui nourrit une autre œuvre, alors vous l'avez affronté de façon complètement radicale en réalisant un remake de Psycho d'Alfred Hitchcock à l'identique. Seule la couleur et les interprètes étant différents de l'original. Là, quel était le désir de ce projet, Gus Van Sant? Qu'est-ce que vous vouliez faire avec ce film-là?
The story of Psycho kind of started.
Eh bien, l'histoire de Psycho, Psychose, démarre au moment où les gens de Hollywood étaient en train de faire des remakes de différents films. Parfois, ils utilisaient des émissions de télé très populaires. Prenez les Flintstones, par exemple. Il y avait des remakes en film de dessins animés, par exemple. Donc ça, c'était les pierres à feu. Donc c'est comme ça qu'on faisait à Hollywood à ce moment-là. Aujourd'hui, on a tendance à refaire Spider-Man ou Batman. Le public n'est pas surpris, il sait à quoi s'attendre, c'est très bien. Hein. Mais quand j'ai rencontré cette équipe à Universal, ils m'ont dit « Ah, bah, s'il y a un film que tu veux, dont tu veux faire un remake, la personne qui est assise à votre droite, là, est responsable de la cinémathèque et on peut trouver un film où on n'a qu'à choisir. Allez-y, dites-nous lequel vous voulez faire. » Donc, c'était une espèce de réaction. J'ai réagi par rapport à leur pratique. Alors, bon, vous comprenez dans la tonalité de ma voix que je ne suis pas un grand fan des remakes. Mais moi, je leur ai dit, mais j'ai une idée. Si on faisait un remake à l'identique, parce que vous aimez bien faire des remakes de films noirs des années 50, mais vous changez la fin parce que le film noir est trop triste ou bien trop déprimant. Alors, ce qu'il faut faire, c'est une fin joyeuse. Donc, moi, je dis, on n'a qu'à garder le travail du réalisateur et du scénariste plutôt que de voler et de tordre le scénario en ignorant ce que le réalisateur a fait. Bon, et ils m'ont dit, à quel film pensez-vous? Et étant donné que j'étais chez Universal, j'ai dit, Psychose, Alfred Hitchcock. Ils se sont mis à rigoler. Ils pensaient que c'était une idée totalement absurde. Je ne vois pas pourquoi, hein. C'est un remake comme un autre, après tout. Mais j'ai dit, mais parce que vous n'avez jamais essayé de faire ça. Vous ne savez pas si ça fonctionne. Vous voyez, ce n'est pas un remake, c'est une copie. On copie un film. Et donc, ils ont balayé ça d'un revers de la main. Mais moi, à chaque fois que je revoyais ces gens-là chez Universal, je revenais à la charge avec mon idée. Je me souvenais de l'idée que j'avais eue de refaire, de copier Psychose. C'est bien plus tard, en fait, quand j'ai fait un film qui a connu pas mal de succès aux Oscars. Eh ben, bizarrement, ces gens-là m'ont appelé. Ils m'ont dit, ah, vous avez des idées, monsieur Van Sant? Et moi, j'ai dit, bah oui, psychose, psycho, on y va. Mais il ne faudra rien changer. On va juste faire ça en couleur, j'ai dit. Et tout à coup, les gens se sont dit, mais quelle idée brillante. Allez, on le fait ça tout de suite. Donc, vous voyez, c'était parce que j'avais eu un certain succès au préalable qu'ils ont bien voulu se lancer dans cette expérience. C'est vrai que c'était expérimental. On prend un film et puis on le copie carrément. Et puis, on connaît l'histoire, ça n'a pas marché.
Oui, mais le film existe et c'est ça qui est important. Mais ce qui est justement notable dans votre parcours, Gus Van Sant, c'est de n'avoir jamais rejeté Hollywood. Vous êtes même installé au départ en 1976. Vous réussissez d'ailleurs à tourner Alice in Hollywood, même si le film ne sera pas distribué. Vous repartez pour New York et puis vous revenez à Portland. Vous ferez des home movies, il y aura des petits films comme ça, mais il y aura Malanoche, votre premier long métrage que vous tournez là-bas, tout comme ensuite Drugstore Cowboys, une partie de My Own Private Idaho, et puis vous y êtes revenu encore tout récemment avec Don't Worry, It Won't Get Far on Foot. Ce quartier nord-ouest de Portland, Gus Van Sant, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Est-ce que c'est votre chez-vous, votre Heimat?
I think a lot of the films in that period are happening in Northwest Portland.
C'est vrai qu'il y a pas mal de films tournés dans le quartier nord-ouest de Portland. Les histoires, les récits, les scénarios ont été écrits là. Les deux premiers scénarios ont été écrits par des scénaristes qui vivaient et travaillaient dans ce quartier nord-ouest de Portland. Rock Curtis, qui a écrit Malanoche. Et évidemment, son scénario est chargé de son expérience, sa vie dans ce quartier, quartier du nord-ouest de Portland, qui est une espèce de quartier oublié de la ville de Portland. Il s'agit des gens qui vivent dans les rues un peu oubliées de Portland, des gens un petit peu laissés pour compte, en quelque sorte. Ensuite, il y a eu Drugstore Cowboy, dont le scénariste était un type qui a passé pas mal de temps en prison. Il venait du nord-ouest, mais pas du nord-ouest de Portland. Nord-ouest, et il venait de Tacoma, en fait. Et My Own Private Idaho, c'est ma propre invention. Bon, là, c'est moi qui suis plus l'auteur. Et là, il s'agit de jeunes laissés pour compte à Portland. Pas forcément dans le quartier nord-ouest, mais ça se passe quand même à Portland. Donc, tout ça pour dire que j'ai vécu là-bas et je connaissais bien Portland. Et puis ces scénaristes, eux, étaient originaires de là. Ils connaissaient parfaitement bien ce quartier.
On va bien sûr, dans la deuxième partie de cet entretien, parler de ce spectacle, Trouble. Mais quelques mots encore sur le cinéma, Gus Van Sant, parce que c'est vrai qu'on évoque Drugstore Cowboy, qui est pour moi un film qui a été vraiment un choc important, tout comme l'a été My Own Private Idaho, qui reste pour moi notamment une référence sur un éternel débat, les scènes de sexe au cinéma. Pour moi, vous avez trouvé dans ce film une magnifique réponse, avec des flashs d'images fixes, des personnages en action, si je puis dire. Ça renvoie à la question du montage chez vous, qui reste un moment important. Est-ce que cette idée-là, pour les scènes de sexe de My Own Private Idaho, c'est une idée de montage, ou est-ce que c'est une idée qui existait dans votre esprit avant?
The idea in Idaho, the particular sex scenes were.
Eh bien, les scènes de sexe dans Idaho sont venues avant le montage, à vrai dire. Les personnages sont immobiles, ils posent, c'est tout. Et cette idée m'est venue d'un autre réalisateur. un réalisateur de films expérimentaux qui faisait la même chose. Il ne s'agissait pas vraiment de scènes de sexe, mais c'était plutôt des scènes dénudées. Et moi, je me suis dit, en voyant ça, qu'il y a toujours un problème parce que on veut exprimer le désir sexuel et l'activité sexuelle de manière directe, mais il y a toujours cette barrière parce que le public aura du mal à comprendre s'il n'en fait pas partie de la scène. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ces images fixes constituent un moyen de faire partie de la scène, d'être immergé, en quelque sorte, dans la scène, sans avoir ce problème de la barrière.
J'évoquais Hollywood, Gus Van Sant, dire qu'évidemment, il y a eu ces films importants, deux périodes différentes, on va dire, de 95 à 2000, avec Prêt à tout, To Die For, Finding Forrester, il y a eu Will Hunting, bien sûr, Psycho, et puis un retour à Hollywood avec Harvey Milk, d'autres films. On voit que tourner dans ou hors Hollywood, ça change quoi pour vous, au fond?
Too much. I mean, To Die For was a Sony picture. It was a Hollywood.
Prêt à tout, c'était un film hollywoodien produit par Sony, mais on a tourné à Toronto, au Canada.
When I was working in Hollywood,
Donc, je travaillais à Hollywood, mais Don't Worry et Will Hunting, ça a été tourné au Canada aussi. C'est hollywoodien, mais c'est pas tourné à Hollywood. Donc, vous voyez la nuance. Mais en fait, tourner à Hollywood ou en dehors de Hollywood, en ce qui me concerne personnellement, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence.
Pour finir cette première partie d'entretien, Gus Van Sant, il y a quelques mois, dans cette émission, je recevais justement le cinéaste Bellatar, dont vous parliez, qui a décidé de mettre un terme à sa carrière de cinéaste. Alors, il me disait dans cette émission, parlant de son parcours de cinéaste, on avance toujours pas à pas, film après film, on va plus profondément dans le fleuve. On purifie notre style, on devient plus créatif, et à un moment donné, on se dit, voilà, c'est prêt, c'est fini. Est-ce qu'il y a chez vous, ou est-ce qu'il y a eu, cette tentation d'arrêter le cinéma parce que ça y était?
Cette année, oui, ça m'a traversé l'esprit. Est-ce que c'est une conséquence de la Covid ou est-ce que c'est une autre raison? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il faut une inspiration très forte pour se lancer dans un projet cinématographique. Parce que on peut concevoir un certain nombre de films assez facilement et des films qui sont plus éprouvants que d'autres, mais en tout état de cause, il faut vraiment de l'énergie et une inspiration très forte. Et si on manque d'inspiration et si on se dit qu'on a fait à peu près tout ce qu'on voulait faire, eh bien, peut-être qu'on pourrait se dire qu'on pourrait mettre un terme au cinéma. Cette année, j'ai travaillé sur différents projets, mais encore une fois, ça m'a traversé l'esprit. J'ai pensé à John Waters. John Waters, il a arrêté de faire des films. J'ai pensé à lui demander pourquoi, d'ailleurs, mais Bella m'a expliqué pourquoi lui, il voulait arrêter. Et il m'a dit qu'il voulait éviter de se répéter, en quelque sorte. Ce qui est tout à fait logique, je comprends très bien ça. Mais s'agissant de moi, mes films, mon cinéma, je suis pas comme lui. C'est pas que j'ai peur. J'ai pas peur de me répéter. J'en suis pas là, si vous voulez. Généralement, j'ai toujours une inspiration qui me vient. Faire quelque chose de nouveau. Et l'inspiration vient de la nouveauté d'un projet. Donc, je crois pas que le moment soit venu pour moi de m'arrêter. Du point de vue de l'énergie, là, peut-être que ça va manquer. Parce qu'il faut, comme je dis, pas mal d'énergie.
France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Nous poursuivons cette émission en compagnie ce soir de Gus Van Sant, qui est connecté avec nous depuis Los Angeles où il se trouve. J'ai toujours la chance d'être avec Xavier Combes dans ce studio à la Maison de la Radio qui assure la traduction de notre entretien. On va en venir à ce spectacle « Trouble ». Qui va être joué à la Comédie de Reims à la fin de la semaine, et donc on va parler d'Andy Warhol. Avant cela, j'aimerais évoquer quelques autres figures qui comptent pour vous, Gus Van Sant, en commençant peut-être par Samuel Beckett et un autre Irlandais fameux, James Joyce. On célèbre d'ailleurs cette année le centenaire de la publication de son roman, Ulysse. Comment ces deux auteurs ont-ils nourri votre imaginaire ?
Beckett was, and Waiting for Godot was something that,
Beckett,
at the same time,
et en particulier en attendant Godot,
class, we were learning cinema,
je l'ai découvert en cours d'anglais, et le prof nous enseignait également des bribes de cinéma, Citizen Kane, mais aussi du cinéma expérimental. Ce prof d'anglais nous a également fait lire Sa Majesté des Mouches, mais aussi En attendant Godot. On avait 14 ans.
Et
étant donné que j'étais particulièrement jeune, je dois dire que ça m'a beaucoup marqué. Et j'ai vu, En attendant Godot, sur scène, plus tard, quand j'étais au lycée, le père d'un copain jouait dans En attendant Godot. Et c'était une très chouette pièce. Donc, non seulement j'ai lu la pièce, mais je l'ai vue sur scène et c'était une chouette mise en scène. Quant à Joyce, Joyce, je l'ai découvert plus tard. Là, c'était pas au lycée ou au collège, surtout pas au collège, non. Mais ces deux auteurs sont absolument incroyables. Et leurs sources d'inspiration sont parfois cinématographiques. Les personnages le sont, et parfois les actions chez Joyce sont inspirées par cette époque où le cinéma devient populaire. Et évidemment, ça a une influence sur son œuvre. Et Beckett, quant à lui, à ces deux personnages, Vladimir et Estragon, qui sont un petit peu comme Laurel et Hardy, ou alors vous voyez des personnages de cinéma qui sont des personnages de comiques. Ouais. Et ça m'a toujours beaucoup plu, ça.
Oui, puis il y a d'ailleurs ce film qu'a réalisé Samuel Beckett avec Buster Keaton, qui s'appelle Film. Mais évoquons aussi une autre découverte importante, celle des auteurs de la Beat Generation, notamment William Burroughs, mais pas seulement. Et William Burroughs, vous l'avez filmé en 1991 dans le court-métrage Thanksgiving Prayer. Il joue aussi dans My Own Private Idaho. Vous avez fait un disque avec lui, The Elvis Letters, en 85. Ces auteurs, en quoi est-ce qu'ils vous ont marqué, eux ?
Alors, oui, là, ça, c'est un petit peu plus tard, ça. C'était après le lycée. J'ai lu La Route. Kerouac, donc, et je me suis rendu compte que les personnages, on les retrouve dans d'autres livres de Kerouac, et les personnages portent des noms différents, mais bon, normalement, ce sont les mêmes personnages. Et donc, Burroughs lui porte un autre nom. Et donc, il y a ces croisements, et au cours de leur pérégrination en voiture, il y avait Allen Ginsberg, Kerouac, et ces deux-là n'avaient pas le permis. Et donc, c'était William Burroughs qui était toujours là, parce que Burroughs était considéré comme le génie, un petit peu le mentor, le prof, si vous voulez. Moi, j'ai lu Le Festin nu quand j'étais à la fac.
sort of description of how he
décrit son écriture. Il explique que c'est une sorte de collage de différentes pages. Il réorganise les choses, il refait des montages et il écrit comme ça. C'est comme ça qu'il décrit. Et pour moi, c'est très intéressant parce que moi-même, je fais des collages visuels dans mon expression artistique. Et puis, il y a une nouvelle aussi de Burroughs. Et ma relation à Burroughs dépend beaucoup de cette nouvelle. Et j'ai fait ce court-métrage inspiré de Burroughs, la discipline de DE. J'ai fait ça, j'étais jeune. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée que de détenir les droits. Et comme ça, je pourrais rendre visite à Burroughs, un petit peu comme le, pour qu'il soit mon mentor, comme pour Kerouac et Ginsberg. Bref, j'aurais voulu demander les droits personnellement à Monsieur Burroughs. Et je sais bien qu'il était prêt à parler à des visiteurs. Et il se trouve qu'en 1975, William Burroughs était dans l'annuaire téléphonique. Et moi, je me suis dit, mais je vais décrocher mon téléphone, je vais appeler William Burroughs. Alors, évidemment, je manquais un peu de courage. Donc, il a fallu que j'attende. Bref, j'appelle finalement. Il était très sympa. Il m'a dit, mais venez donc me voir. Et j'ai pu lui expliquer que j'allais déménager pour aller à Los Angeles. Et il m'a parlé un petit peu de Los Angeles. On a parlé pendant environ une heure, tous les deux. Et j'ai tourné le film. Et plus tard, j'ai tourné Drugstore Cowboy et il nous fallait un personnage d'un homme un peu plus âgé qui était héroïnomane, ancien héroïnomane. Et son personnage s'appelait Old Tom, le vieux Tom. Et je me suis dit, mais Burroughs, ce serait génial. Il est pas jeune, c'est un ancien héroïnomane. On va lui demander. On lui a demandé, et ben il a dit oui. Et voilà.
Partly, I think, because he made us promise that we would shoot all of his scenes in one day.
Promettre que le tournage ne durerait qu'un seul jour pour lui. Et on a dû faire 5 scènes en une seule journée avec lui, hein, parce qu'il voulait pas que ça dure plus longtemps. Mais on a réussi. Mais pour se souvenir de ses répliques, il fallait qu'il fume. Et de la beuh un peu sérieuse. Hein. Donc ça fait partie des demandes hein, qu'il a formulées pour tourner. Hein. De l'herbe un peu costaud.
Mais,
et moi, quand je me souviendrai toujours de lui, quand je faisais de la voiture, par exemple. Plus tard, il m'a dit que je ressemblais à un vieil ami à lui. Et c'est ainsi que ma relation avec William Burroughs était en grande partie due à ma ressemblance avec un de ses vieux amis. Mais tout ça pour dire que William Burroughs a eu une grosse influence sur moi.
Et c'est un formidable acteur aussi dans Drugstore Cowboys. Mais cette thématique de jeunes gens qui cherchent à se constituer une famille de substitution, c'est une thématique évidemment présente dans nombre de vos films et qu'on retrouve pour partie dans ce spectacle et qu'on retrouve avec notamment la Factory de Warhol. Je me demandais comment vous aviez choisi les limites temporelles du récit puisque l'action du spectacle débute en 1959. On est dans une galerie qui expose des œuvres d'artistes du pop art. Et puis, il y a le jeune Andy Warhol qui trouve ça fascinant, qui pense que c'est là que ça doit se faire. Les critiques d'art sérieux trouvent ça vraiment nul. Le spectacle couvre une décennie, juste après que Valérie Solanas a essayé d'assassiner Andy Warhol. Il y a aussi l'assassinat de Bob Kennedy. Pourquoi ce choix, cette décennie, ces limites temporelles ? Set it in that period of time.
How did you make that choice? There were numbers of choices of like what part of his life.
Il a fallu faire plusieurs choix. Et je me suis dit qu'il fallait que je fixe des bornes, des limites temporelles. Je pars de son statut d'outsider, d'artiste commercial, et je suis son évolution pour montrer comment, à terme, il a de la chance et comment il a fait un tableau qui est devenu le tableau iconique du pop art, la boîte de soupe Campbell's. Et évidemment, il a connu la renommée grâce à Time magazine. Et ils ont fait un article sur le pop art, et ça, c'est au début des années 60. Je crois que c'était en 62, cet article. Et on y voit une photo d'Andy avec la fameuse soupe Campbell. Et on essaye d'expliquer ce qu'est le pop art, alors qu'il n'y avait qu'une seule image, Andy Warhol, avec la soupe Campbell's. Donc vous voyez, c'était une idée extrême hein, de faire une œuvre d'art à partir d'un produit commercial, cette soupe en boîte. Et ça a servi d'explication de ce qu'était le pop art, mais l'approche même était absurde, c'était dadaïste en réalité. Donc, toute cette absurdité a donné de la visibilité publique au pop art. Et Andy est devenu le créateur, l'égérie, grâce à ce tableau. Il est devenu la figure de proue du pop art. Quelques mois auparavant, il n'avait pas de galerie. Il était outsider. Il n'était pas du tout connu pour le pop art avant. Et moi, c'est ça que je voulais montrer. Et je voulais montrer quel retentissement ça avait sur la vie, l'univers de Warhol, pour montrer son succès en tant qu'artiste qui lui a permis de créer cette famille. C'est vrai, vous l'avez dit, on a parlé de cette création de famille, d'une famille de remplacement pour tous les personnages qui gravitent, voilà. Et voilà, donc ça, c'est un petit peu son ascension, mais aussi un petit peu sa chute.
I demand cashmere sweaters, motorcycle boots, throw rugs, new haircuts, and I demand sex, drugs, and rock and roll! Dicks floating! It's
this is the best argument for taking LSD that I've ever seen.
Oh, Howard, the films are in poor taste.
And the discotheque is in even poor taste. God. Woo.
Quelques instants encore avec vous, Gus Van Sant, mais diriger des interprètes sur un plateau de théâtre, qu'est-ce que ça change par rapport à la direction d'acteurs sur un plateau de cinéma ?
Oui, diriger les comédiens, c'est un petit peu comme au cinéma. Par contre, donc je me suis pris comme au cinéma, mais c'est pas forcément la meilleure idée que j'ai eue, parce que la scène de théâtre exige une approche différente. Mais bon, j'ai dû apprendre en marchant.
Ça vous a donné envie de renouveler l'expérience?
Well, yeah, I would still like to work in the theater.
Oui, ça me plaît beaucoup le théâtre. Je voudrais retravailler au théâtre. C'était tout à fait génial, très stimulant cette expérience.
Merci à Gus Van Sant d'avoir été notre invité. Son spectacle, Trouble, va être repris du 15 au 18 décembre à la Grande Halle de la Villette à Paris. Demain, à 14h, je vous donne rendez-vous avec la plasticienne Annette Messager. Et dans quelques instants, vous avez tout d'abord rendez-vous avec les fictions de France Culture pour la suite de votre feuilleton de l'été, l'adaptation du roman de Vassily Grossman, Vie et Destin, réalisé par Christine Bernard-Sugy.